Donc, la rame le percute. Le stylo de Vincent est en suspens au-dessus de son carnet. « Disons, c'est plutôt lui qui percute la rame, » corrige Rum. « Explique. »« Il a rebondi sur la rame. Peut-être il a dû penser qu'il allait sauter sur les rails et s'enfuir, mais bon, à ce moment, la rame n'était pas là. Et la seconde d'après, elle était là. Et en se précipitant, il est rentré en plein dedans. Ça l'a fait pivoter, et il a été projeté contre le mur, vous voyez, là où il y a le tableau avec les lignes et les stations, et après, ouais, il s'est écroulé sur le quai. » Et il a roulé, et il est tombé sur la voie, dit Bobby obligeamment. Ouais. Bobby et Vincent se font un signe de la tête. Ça se tient. Bobby sourit à Rum. Tu sais quel espace il y a entre une rame de métro et le bord du quai ? Rum hausse les épaules. Il sent la déflagration avant même que la bombe ne soit lâchée. 20 centimètres. Apparemment, c'est un écart normalisé. Et en plus, on a mesuré. Rum donne l'impression d'avoir cessé de respirer. Il est paralysé. Bobby lève la main pour que Vincent arrête d'écrire. « Bon, Rum, dit-il, compte tenu de l'état de ton visage et du fait que tu es venu ici pour nous dire toute la vérité, je ne pense pas que ce soit le moment de te mettre à raconter des conneries. Tu n'es pas assez futé pour nous vendre des salades, quelles qu'elles soient. Et si tu ne joues pas franc jeu avec nous... « Comme en ce moment, par exemple, » intervient Vincent. « Eh bien, on va te foutre dehors d'ici et faire en sorte que tout le monde sache que tu n'as pas été très coopératif avec nous. Ce qui, dis donc, va te valoir une réputation d'enfer d'un bout à l'autre de Broadway. Mais est-ce que ça va te valoir la faveur de Mary Pat Fennessy ?» Rum recommence à se mordiller la lèvre, comme si ses dents étaient des engrenages d'horloge. « Quelle couille elle va lui couper en premier ?» demande Vincent à Bobby. « Ça dépend si elle se sert de sa main droite ou de sa main gauche, » répond Bobby. Vincent demande à Rum « Elle est droitière ou gauchère, t'as remarqué ?» Rum ne dit rien. C'est comme s'il glissait doucement dans un état de choc. « Il a pas remarqué, » dit Vincent. « Si elle est droitière, » dit Bobby, « on doit supposer que c'est le côté gauche de ses couilles qui est le plus facile à... tu sais, à empoigner et sectionner. » Vincent fait la grimace et croise les jambes. « Si elle est gauchère, elle s'attaque à la couille droite. » « Et sa queue ?» Bobby répond. « Alors là, il faudrait vraiment être dans sa tête, je veux dire... » Est-ce qu'elle veut simplement l'attraper, tirer dessus comme du caramel mou et la sectionner net à la base ? Arrêtez ! Murmure Rum. Ou bien est-ce qu'elle commencerait au bout et la trancherait au milieu dans la longueur comme une banane ? Rum laisse échapper un haut-le-cœur. Et quand il le regarde, sa langue sort de sa bouche et sa tête se projette loin en avant de son cou. Il a d'autres haut-le-cœur. Mais il ne vomit pas. Alors grand soulagement, parce que... la merde et la pisse, ça suffit. S'il fallait ajouter à cela un autre fluide corporel écœurant dans la pièce, toute la fumée de cigarette du monde n'y pourrait rien. C'est maintenant le tour des larmes. Elles jaillissent sous ses yeux et lui font perdre 5 ans.
« Si elle me coupe la queue, » dit-il, « c'est pas comme si j'allais simplement me retrouver sans queue, je veux dire, je vais mourir, hein ?»«
Ça dépend si t'es loin ou pas d'un hôpital, » répond Vincent. Et de ce que tu as sous la main pour arrêter l'hémorragie, ajoute Bobby.
Ouais, ça va sans dire, acquiesce Vincent.
Tu crois? Ce gosse ne s'est jamais fait couper la queue avant, alors peut-être qu'il ne sait pas toutes ces choses-là. Une autre série de haut-le-cœur. Ils attendent qu'il ait terminé.
Vous pouvez pas l'empêcher de faire ça!
Les larmes tombent.
On peut l'arrêter, dit Bobby.
Bien sûr. Tu fais une déposition, tu jures qu'elle t'a menacé et nous, on l'embarque.
Et après ?
Bobby pousse une boîte de mouchoirs en papier vers lui sur la table. Elle se retrouve devant un juge.
Elle va aller en prison !
Bobby regarde Vincent pour avoir son opinion.
Peu probable, dit Vincent.
Et pourquoi pas, merde ?
Le garçon chiale et braille pratiquement maintenant.
Elle a dit qu'elle allait me couper les couilles. Et la queue. Elle m'a tabassé.
Bon, mais si nous parlons bien de Madame Fennessy, elle n'a pas d'antécédents. Citoyenne modèle, précise Vincent. Bobby décide d'en rajouter une couche, un pilier de la communauté. Alors elle s'en tire avec une petite caution. Et encore, si elle a une caution à payer. Effectivement, c'est une lisp à tous les coups.
C'est quoi une lisp?
Libérée sur son propre engagement.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle n'aura pas de caution à payer. Et qu'elle ne passera pas une seule nuit en prison.
Mais elle a menacé de me couper les couilles.
Qui donc? Qui est cette elle dont tu as si peur, Rum? Donne-nous un nom. Il secoue la tête. Alors finis de nous raconter ce qui s'est passé la nuit où Oggy Williamson est mort.
Et ne nous débite pas tout un tas de foutaises du genre, il a rebondi sur la rame, puis il a rebondi sur un mur avant de tomber sur la voie, parce qu'on sait que ce sont des conneries. Comment?
Des témoins, le rapport du légiste, et 10 ans de ce foutu métier de flic.
Tu peux nous dire la vérité?
Bobby donne une autre cigarette à Rum et lui tend du feu. Ou alors tu peux tenter ta chance et sortir d'ici.
Et si je vous dis la vérité et qu'il se trouve que j'ai fait quelque chose de mal?
Alors on t'arrêtera.
Et je serai pas obligé de sortir d'ici.
Pas tant que tu n'auras pas payé ta caution. Tu seras à l'abri, bien peinard, dans une chouette petite cellule. On te donnera même un oreiller. Rum tire longuement sur sa cigarette et souffle encore plus longuement la fumée en regardant au plafond. Puis il dit
« Il est vraiment allé percuter la rame et il a vraiment été projeté contre le mur. Ça l'a assommé et bon, il était étendu sur le quai, il avait des convulsions et tout ça et après, ça s'est arrêté. Alors, on a cru qu'il était mort. »
Mais il ne l'était pas. Il secoue la tête.
Je veux dire, on a cru qu'il était mort, mais...
Ils attendent. Au bout d'un moment, Bobby dit « Il faut nous en dire un peu plus à propos de ce « mais ». Quand la tête du type est heurtée par la rame, ça les fait tous rire, George Dunbar plus que les autres. Quand le gars est projeté contre le mur et qu'il s'écroule sur le quai comme si on l'avait largué d'un hélicoptère, ça les fait rire encore plus. Mais ensuite, tandis que les portes des voitures s'ouvrent, il remarque qu'il est pris d'une sorte de crise bizarre, comme s'il avait été électrocuté. Ses talons martèlent le sol, ses bras s'agitent et battent contre ses côtés. Sa tête roule de droite à gauche et ses yeux se renversent si loin dans son crâne qu'on dirait des blancs d'œufs. Ils sont tous les quatre autour de lui, si bien qu'il est difficile pour quelqu'un qui passe de bien voir ce qu'ils entourent. La rame quitte la station. George dit à un couple « Qu'est-ce que vous avez à regarder comme ça ?» Et le couple se dépêche de quitter le quai. Le jeune noir ne bouge plus. Un filet d'écume blanche coule du coin de sa bouche. Du sang goutte de ses oreilles. Rum remarque qu'une rame de la ligne extérieure quitte le quai d'en face et il voit un type s'en aller la tête baissée. Un type costaud. Pas le genre que vous avez envie d'emmerder, mais il connaît la musique dans le coin. Si vous ne voyez pas quelque chose, personne ne pourra vous faire dire que vous l'avez vu. Tout à coup, ils se mettent à se crier les uns sur les autres. Rum est incapable jusqu'à aujourd'hui de vous dire exactement ce qui y est dit, mais il sait que George s'inquiète au sujet des témoins. Brenda s'inquiète du fait que ses parents pourraient l'apprendre, et Jules n'arrête pas de hurler, de vraiment hurler, que tout ça, c'est leur faute, qu'ils vont aller en prison. Rum se souvient leur avoir fait remarquer que, les coups de pied mis à part, ils n'ont pas réellement blessé ce type. Il s'est blessé tout seul. Rum a tabassé 2 ou 3 gars dans sa vie, il sait faire la différence. Brenda donne une gifle à Jules pour qu'elle arrête de hurler. Ensuite, George traite Rum d'espèce de demeurée et dit « Tirons-nous. » Il laisse le type de couleur sur le dos par terre et monte les marches de la sortie côté Columbia Road.
Et quand il pousse les portes, il y a là Frankie Toomey, appuyé contre sa voiture, en train de les attendre. Frank les ignore tous, sauf Jules. C'est monnaie courante avec lui. Jules affirmait à Brenda qu'il pouvait être drôle et étonnamment tendre, mais si c'était vrai, il réservait cet aspect de sa personnalité pour des moments en privé ou pour les gamins qu'il charmait dans Broadway. Sinon, il était aussi froid et dur que le suggérait son surnom Tombstone. Son corps était dur, son visage était dur. Ses yeux étaient aussi morts que ceux de la poupée G.I. Joe. Il ouvre la portière de sa voiture et Jules monte. C'est là que le groupe se sépare. George et Brenda partent dans la voiture de George. Frankie et Jules partent dans la voiture de Frankie. Et Rum, celui qui est toujours de trop, rentre chez lui à pied.
Revenons un peu en arrière, dit Bobby.
Rum engloutit le verre d'eau qu'ils lui ont apporté, avec sur le visage l'air de celui qui sait qu'il n'arrivera jamais à faire avaler ses conneries à personne.
Ouais, bien sûr.
Comment Augie Williamson a pu finir sous le rebord du quai?
Je sais pas, peut-être que... Il a pu rouler?
Ok.
Nous, on l'a laissé où il était.
Sur le quai, avec une écume blanche qui sortait de sa bouche.
Seulement d'un côté de sa bouche. Donc, vous montez l'escalier, dit Vincent. Et Frank Toomey est là à vous attendre.
Un hochement de tête.
Quelle est son humeur?
Un haussement d'épaule.
Allons. Dans quel état d'esprit semble être ce type?
Rum a l'air extrêmement mal à l'aise. Comme si peut-être l'entaille sous ses couilles commençait à montrer les premiers signes d'infection. C'est ça, ou alors il est maintenant sous l'influence d'une nouvelle source de terreur.
Je sais pas, je le connais pas. Je peux pas juger son état d'esprit.
Tu le connais, dit Bobby. Tu as grandi en le voyant traîner dans le quartier. Il est connu pour entrer dans une boutique et acheter des bonbons pour tous les gamins. Dans Broadway, il est un peu comme l'oncle préféré de tous les gamins.
Ouais, bon, ça c'était avant. Sans compter que t'es sa couverture, dit Vincent.
Bien vu, dit Bobby.
Ça quoi?
Sa couverture, répète Vincent avant d'expliquer.
Tu lui sers de couverture en te faisant passer pour le petit ami de Jules Fennessy pour que sa femme ne se doute pas que Frank baise une gamine de 16 ans. Jules a 17 ans.
Ah, dit Bobby en agitant son index en direction de Rum. Mais elle ne les avait pas quand elle a commencé cette histoire avec Frankie, pas vrai?
Les yeux de Rum roulent dans leurs orbites comme des billes qu'on jette dans un bol.
Je suis pas ici pour parler de ce Frankie.
Et pourtant... On est là en train de parler de lui.
Tu veux savoir son état d'esprit? Ce type, c'est la mort. C'est ça son putain d'état d'esprit. C'est l'enculé le plus froid et le plus monstrueux que j'ai jamais rencontré. Rum lève les mains. Je dirai rien sur Frankie Toomey.
Rien?
Rum leur sert sa meilleure imitation d'un dur à cuire, paupières mi-closes, petit sourire narquois, et il secoue la tête doucement.
Que dalle!
Alors? Dit Bobby en allant ouvrir la porte.
Tu es libre de partir.
Rum regarde Vincent refermer son carnet et remettre son stylo dans la poche intérieure de son manteau en faux cuir.
Allez, on se bouge,
lance Bobby à Rum.
Je veux rentrer chez moi.
Rum répond.
Hé, les gars! Vous avez dit que vous alliez m'inculper!
Pour quel motif?
Vincent allume une cigarette avec son briquet, en imitation or, qui ne fonctionne qu'une fois sur trois.
Pour ce qui s'est passé?
Tu ne nous as pas dit ce qui s'est passé, réplique Bobby. Tu nous as raconté des conneries au sujet d'Augie Williamson, qui a percuté une rame en courant, ce qui, étant donné que tu le poursuivais, pourrait peut-être conduire à une inculpation pour homicide involontaire.
Et aucun procureur ne va perdre son temps avec un truc comme ça.
Vincent rejoint Bobby à la porte.
Je vais faire un saut chez JJ, et toi?
Je vais peut-être te tenir compagnie.
De la Nickel Gansies de minuit à 2 heures.
À la pression?
Ouais.
Bobby fait la grimace.
La Narragansett pression, ça me donne la chiasse le lendemain. À moi aussi, Mais bon, je suis en congé demain. »
Il quitte la salle d'interrogatoire, traverse la grande salle commune. Bobby voit qu'il a 3 messages collés sur l'abat-jour de sa petite lampe de bureau. Il les lit.
« Revenez !» lance Rum depuis la salle d'interrogatoire.
« Tu vas vraiment chez JJ ?» demande Bobby à Vincent.
« J'y pense. J'ai faim aussi. Je vais peut-être me prendre un sous-marin quelque part en chemin, et toi ?»«
J'étais censé pas être de service ce soir, » dit Bobby.
« J'ai juste envie de rentrer chez moi. Revenez !»
Vincent baisse légèrement la voix.
« Tu connais cette nana qui travaille à Property ? Une avec de grands yeux marrons. Et de ses lèvres. »
Bobby se met à rire.
« Quoi ?»
Vincent est déjà à moitié outré.
« Tu sais de qui je parle ?»«
Deb Depitrio ?» dit Bobby.
« Allez, revenez !»
lance Rum qui se tient maintenant dans l'encadrement de la porte.
« Ouais, Deb.
Elle ne sort qu'avec des docteurs.
Mais c'est une employée de bureau
qui ressemble à Raquel Welch.
Tu te fous de ma gueule ou quoi ?
T'as plus de chances de sortir avec la vraie Raquel Welch qu'avec Deb.
C'est quoi, une amie à toi ?
En quelque sorte, ouais.
Alors tu penses que toi, t'as une chance avec elle ?
Bobby pouffe de rire à cette idée. Je suis un flic pas très en forme de 10 ans de plus qu'elle. J'ai aucune chance. Et je le sais. Et c'est pour cette raison que ça ne la dérange pas de bavarder un peu avec moi. Toi, en revanche, je parie que tu vas te mettre de la guavelva pour aller te pencher au-dessus de son comptoir et lui sortir « C'est quoi la couleur de votre rouge à lèvres ?»«
Va te faire foutre !»«
Vous faites quelque chose à vos cheveux ?»«
Non, vraiment, va te faire foutre !»« Messieurs les agents, s'il vous plaît !»« On est des putains d'inspecteurs !»
crie Vincent. Puis se tournant vers Bobby.
« Aucune chance alors ?»
Bobby secoue la tête. « Vous deux, échouez sur une île déserte. » Elle attendrait probablement 2 ou 3 ans, au moins, au cas où on viendrait à votre secours.
T'es vraiment un emmanché.
Bobby réfléchit un instant.
Pas faux. S'il vous plaît!
Ils se tournent tous les deux vers lui. Il est appuyé contre le montant de la porte, peu enclin à se risquer dans une salle pleine d'hommes lourdement armés qui, s'ils daignent regarder dans sa direction, le font avec un air méprisant. Son jean taché de sang séché est complètement collé à ses cuisses et à son bas-ventre. Ses yeux sont de nouveau larmoyants.
« Je peux pas retourner dehors !»
Bobby et Vincent l'observent, l'œil vide.
« S'il vous plaît, m'obligez pas !»«
On n'a rien pour te retenir, » dit Bobby. « Que Dieu te garde !» dit Vincent.
« Arrivederci !» dit Bobby.
« Vaya con Dios !» dit Vincent. « Tu viens déjà de le dire, » lui dit Bobby.
« Non, j'ai dit que Dieu te garde. Frank Toomey nous a demandé de retourner dans la station !»
lance Rum. Quelqu'un dans la salle de la brigade émet un sifflement, doucement et longuement. Tout le monde a les yeux braqués sur Rum Collins à présent. Rum regarde Bobby comme un type qui sait que sa vie ne sera plus jamais la même.
« Il nous a dit qu'on devait finir le boulot !»